potes, venez chez moi, y'a papa. Aidez les potes, y'a papa, y'a papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, Lydie Diana, poupou zizi, mimi papa, y'a papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piquez dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que je trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est Vétus, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à la causerie de 22h à 23h.
C'est dimanche, non, c'est ça?
C'est ça, ouais, c'est le dimanche. Bien vu.
Bien.
Je te vois pas très bien.
Bah moi non plus, je te vois pas, donc attends, bouge pas.
Ah, ouais. Ah voilà. On Parce qu'en en fait, vous savez pas tous les secrets de toute cette radio, mais en fait, eh ben voilà.
Merci pour cette...
Je pense que ça fait suffisamment de détails. Donc, toujours à la causerie, on peut toujours... Enfin, vous pouvez toujours nous joindre à la causerie canu@gmail.com. On a aussi un blog qui est le blog La Causerie dans votre moteur de recherche. Et vous nous trouverez. Et puis, ben, on va essayer de dire bonjour aux gens qui sont autour de moi, parce que je suis pas tout seul quand même. À la technique, on retrouve Fab.
Ouais, ouais. Salut, c'est Fab à la technique.
Super. On retrouve la femme à lunettes, Emma.
Hello.
Ça va être une émission bordélique ce soir.
Non, ça va,
non,
on se reprend. On se reprend. Il y a aussi Vanessa qui est avec nous.
Oui, bonsoir.
T'as vu tout de suite, hein. Bonsoir Vanessa. On a aussi Tatiana, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais elle n'osera pas dire bonsoir.
Ok, elle n'osera pas.
Bonsoir.
Voilà. C'est à peu près ta voix. Ok. Et on a Yann, c'est ça?
Bonsoir.
Il a dit bonsoir en tout cas.
Vous ne leur avez pas laissé de micro, c'est pour ça.
C'est vrai,
c'est vrai.
C'est vrai. C'est Vanessa, elle a toujours rave. Bon, la causerie, qu'est-ce qu'on... Ah bah vas-y.
Juste comme ça, parce qu'elle n'est pas là ce soir, c'est Clara qui nous a dit que sa fille était malade. Alors bon courage à sa fille quand même.
Voilà, oui, c'est vrai.
C'était la privette, bonjour, tout va bien.
Oui, et puis voilà. aussi, je pense qu'il y a une personne
qui
nous est très chère.
Et
oui.
Qui n'est pas là. Et
ça commence à bien faire.
Oui. Et ça commence à bien faire.
Voilà.
Je pense que tu as raison. Vous avez tous bien compris qu'on parlait de Louli, hein, qui, espérons-le, reviendra s'il n'est pas arrêté par les forces du mal. Enfin bon, on fait des bisous à Louli, ouais. Et puis normalement, il sera là dimanche prochain.
On espère.
Et puis restez bien jusqu'à la fin de l'émission.
Oui.
Ouais. On vous en dit pas plus.
Non, voilà. Carrément. Louli, tu vas être ravie.
Voilà.
Voilà. Bon, ben on va peut-être commencer tout ça après 10 minutes de présentation.
Ça tombe bien que tu tiennes le crachoir, c'est à toi.
C'est ça.
Alors vas-y, tu voulais nous parler d'un film, je crois.
Ouais, c'est ça. Je voulais vous parler d'un film qui est encore à l'affiche, peut-être plus pour très longtemps, parce qu'il est sorti il y a 15 jours. C'est Jackie au Royaume des Filles. Alors, je règle tout ça. Voilà. En fait, c'est un superbe film. Déjà, je vais commencer par présenter le réalisateur, c'est Riyad Satouf, qui est connu déjà par son film en fait qu'il avait fait avant, c'était Les Beaux Gosses, qui avait reçu un César, je crois. Oui, c'est ça, du premier film. Et qui est aussi auteur de La vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo. Il est également l'auteur de Pascal Brutal, pour ceux qui connaissent. Et puis là, il nous revient avec Jackie au Royaume des Filles. Alors, Jackie au Royaume des Filles, alors, c'est pas tout à fait une comédie. Je dirais presque que c'en est même pas une. Mais par contre, c'est une satire sociale que moi, j'ai vraiment appréciée parce que, en fait, c'est une société qui oppresse les hommes, et celles qui oppressent les hommes, ce sont les femmes. Donc on est dans une société inversée, et c'est très intéressant parce que ça va jusqu'au vocabulaire. Alors déjà, pour commencer, je suis un peu brouillon, mais vous êtes habitués, hein, ceux qui nous écoutez. Déjà, pour l'entrée du film, le film commence sur une pendaison. Enfin, il y a 5-6 hommes, à peu près, au moins, qui sont pendus devant la foule, en liesse, comme ça peut se passer dans certains pays, hein, sans les nommer, mais je pense que c'est le genre d'image qui nous parle un peu à tous. Hein, on a déjà tous vu des gens pendus dans des stades, etc. Ou si vous ne l'avez pas vu, regardez, parce que c'est la réalité. Et donc, on se retrouve dans une république démocratique et populaire, ça ne vous rappelle pas quelque chose, de Bubune. Alors que ce pays, hein, cette superbe démocratie, est tenue d'une main de fer par la chef suprême, la générale, alias Anémone, qui est vraiment d'une froideur exquise. Je ne sais pas si ça colle ensemble, mais je trouve que c'est assez sympa. Elle est entourée d'une shérif, qui elle est chargée d'exécuter les opposants au régime, hein, comme dans toute démocratie. Et et la fille de la chef suprême, qui est Charlotte Gainsbourg, qui est la colonelle, qui elle est chef des forces armées du pays, en attendant de succéder à sa maman
démocratiquement, comme
bien
dans,
évidemment
dans toute grande démocratie,
bien évidemment, enfin je veux dire, ou alors vous remettez beaucoup de démocratie en question, monsieur. Alors en fait oui, c'est donc on se retrouve dans une société dans une société patriarcale au final, parce qu'il s'agit pas de matriarcat, c'est vraiment du patriarcat. Et tout est inversé, c'est-à-dire que le pouvoir il est aux femmes, les hommes ils sont voilés quand même, parce que leur pilosité pourrait exciter, pourrait être une tentation aux forces plutôt obscures. Hein. Et ils sont cantonnés à la cuisine, au ménage et à l'éducation des enfants, si ça vous rappelle quelque chose. Et leur seule chance, en fait, dans la vie, ce serait de trouver à peu près une épouse qui soit un peu sympa, quoi, en fait. Qui le considère un peu comme un être humain, hein, même si l'homme reste inférieur quand même à la femme. Tiens, c'est vraiment bizarre ce film.
C'est marrant, hein, ça rappelle quelque chose, mais on sait pas trop quoi.
Mais alors justement, c'est ce que je me suis. Alors, et après justement pour vraiment la petite cerise sur le gâteau, il y a une belle religion, bien évidemment, des chevalins sacrés. Donc c'est-à-dire que les chevalins, les petits chevaux.
Des espèces de poneys bizarres.
Oui, c'est des petits poneys, en fait.
Des doubles poneys, non ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, ils sont sacrés, quoi. Donc, tout le monde se prosterne devant le chevalin sacré. Et donc, là aussi, hein, c'est toujours très sympa de voir la force de la religion et la collaboration entre une dictature et la religion, etc., qui aide quand même à asseoir un pouvoir. Et donc, après, ce que je me suis dit, c'est que, parce que j'en ai aussi parlé avec deux, trois personnes qui sont un peu plus dans les milieux militants, je me dis qu'aux personnes qui sont déjà, on va dire, très sensibilisées au sujet, qui ont déjà réellement, qui se sont déjà interrogées sur la société patriarcale, sur la domination homme-femme, etc., je pense que le film, il peut ne pas vous plaire. Voilà. Par contre, je reste persuadé, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que pour certaines personnes, ça va vraiment leur parler, quoi. Enfin, parce que des fois, il faut un peu une démonstration par A plus B. Et ben là, quand vous-même, en tant qu'homme, vous êtes dans une société oppressée, vous vous rendez compte aussi de ce qu'est l'oppression quotidienne qu'on vit dans notre société, qui est juste l'inverse, c'est-à-dire où les hommes dominent majoritairement les femmes. Et c'est un peu hyper intéressant parce que ça va, cette féminisation de la société, cette domination féminine de la société, va jusque dans le vocabulaire. On parle plus d'un magasin, on parle d'une magasinerie. C'est-à-dire que le vocabulaire est féminisé. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que si vous regardez un peu dans notre société comment que ça fonctionne, bah le masculin prend toujours le dessus sur le féminin, etc., etc. On a beaucoup de mots qui existent au masculin, mais qui au féminin, en fait, on s'en fout, on cherche même pas à le féminiser, on s'en fout.
Ou qui ont un sens négatif au féminin.
Ou qui ont un sens négatif au féminin. Donc ouais, enfin moi je trouve que c'est un film vraiment très intéressant. Moi je vous le conseille vivement. Après, c'est pas, comme dit, je pense pas que ça soit le film de l'année. Pas forcément, parce qu'il y a quand même certaines longueurs, il y a des trucs qui sont un peu long, un peu chiant. Mais après, c'est sur le sujet. Enfin, c'est quand même hyper intéressant et hyper malin, je trouve. Enfin, d'avoir démontré cette domination quotidienne qu'on vit dans notre société par une inversion des choses. Parce qu'au final, il faut quand même aussi démontrer aux hommes qui sont majoritairement les dominants à quoi ça ressemble une société où eux-mêmes seraient les dominés. Ça fait beaucoup de dominants-dominés, n'est-ce pas ?
Voilà.
N'est-ce
pas ? Mais c'était clair, ça qui est bien.
C'est vrai, c'était clair ? Bon, ben ouais. Je vous remercie. Ben voilà.
Oui. Je peux, moi, oui, j'ai vas-y. Vu le film, en plus, tu l'as vu, je l'ai vu avec toi.
Mais oui, il y en a aussi Vava qui l'a vu, mais je ne sais pas si elle voulait vouloir dire quelque chose.
Et moi, en fait, ce qui m'a plu vraiment, déjà, c'est qu'on sent que Riyad Satouf, il s'est vraiment inspiré de l'ensemble de sa vie, quoi.
Oui.
C'est-à-dire, quand on connaît son parcours, je crois que tu l'avais noté.
Ouais, il a grandi, enfin, il est d'origine franco-syrienne, il a grandi en Algérie, en Libye, en Syrie, et de son expérience en Syrie, il a fait aussi un livre qui s'appelle Ma circoncision, où il compare, enfin, où il dit que la circoncision, pour lui, est un acte barbare et brutal. Donc, oui, enfin, il y a.
Enfin, on sent qu'il met beaucoup de son parcours. Ouais. Et c'est intéressant parce que, du coup, moi, j'ai lu des critiques, et là où je me suis un peu marré, c'est que, avant que les gens sachent d'où venait le film, il y a des gens qui ont commencé à dire c'est une attaque contre l'islam, machin et tout. Et en fait, Riyad Satouf, il a répondu en disant bah, c'est une attaque contre ce que je connais, quoi, en fait, parce qu'en gros, lui, il a pris un peu ses codes et il les a inversés, il les a transformés. Et honnêtement, quand vous voyez le film, ça n'a rien, c'est pas du tout une attaque, c'est plutôt clairement une attaque contre la religion contre, en général et contre les hommes en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de stigmatiser qui que ce soit.
Non.
Et c'est vrai que ce qui est drôle, moi, je trouvais très drôle dans le film, c'est que, alors, pas raconter la fin, mais il va même jusqu'à gratter l'ultime tabou de toutes les sociétés. Oui. Et ça, c'est assez génial parce que du coup, il le fait dans tous ses films, en fait, et dans tous ses écrits. Tu parlais de Pascal Brutal, qui est le seul... Pascal Brutal, c'est un gros balèze et tout, mais bon, qui est bisexuel et qui sait pas trop où il se trouve. Voilà. Enfin, par exemple, il met toujours à chaque fois un truc un petit peu un poil à gratter pour dire, et là, vous le voyez comment, quoi. Et en fait, le film repose beaucoup là-dessus, et moi, ça m'a plu parce qu'il perd pas son temps, je dirais, à essayer de ménager chèvre et chou, à dire est-ce que, oulala, je vais peut-être aller trop loin là ou autre. Il y va franco, alors ça peut déplaire. Moi, j'aime bien les satires sociales, donc ça m'a plu. Voilà.
Et ben voilà, ça fait deux avis. Non. Là-bas, je pense qu'elle a aimé
Vanessa,
un peu.
Elle a pas envie.
T'as aimé un petit peu quand même.
Oui, j'ai bien aimé.
Ah ouais.
Et si tu disais dans le micro.
Donc voilà, enfin après c'est Jackie au royaume des filles, ouais, de Riyad Satouf. Regardez autour de vous, il est encore en salle, je pense, au moins jusqu'à mercredi. Et après, espérons que vous soyez suffisamment nombreux pour qu'il le garde encore quelques temps, parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Et on va passer
à
un super morceau. On vous laisse écouter.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Sont leurs tiges horizontales, leurs pieds s'y font leur de babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Sont leurs petits sceptres dans leurs culottes. Leurs petits périscopes sous la flotte. Sont le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties taxi de braguette, dans des gros rires à la buvette. Les hommes, ils se racontent leur guéguerre, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière. Les hommes, virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère. Les hommes, ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins qu'une sorte de hors-cité. Un homme s'aime les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux. Enfin quoi, c'est pas comme nous. Les hommes s'aiment les femmes à la folie, passives, muettes, mais jolies, de préférence dans le lit. Les hommes au pavillon ou au boudoir, à la torture ou au trottoir, s'aiment les femmes sans espoir. Les hommes prostituées ou Pénélope, apprivoisées ou antilopes, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes sont abattus, les Tibétaines sont fracassés, les Africaines sont indignées, les Indiennes. Les hommes sont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux Châtelaines et les habillés à Mémène. Les hommes, excusez-moi, mais elle me gratte, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir, de votre mafia, votre empire des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Et bien vous êtes de retour à la causerie, toujours sur Radio Canu 102.2 ou sur radiocanu.org en direct. Et bien on vient de s'écouter Henri Tachant avec le titre Les Hommes. Si vous ne connaissez pas Henri Tachant, moi je l'ai découvert ce week-end, c'est un délice. De toute façon vous en réentendrez, je pense, dans la causerie, sûrement sur les bandes continues aussi. Parce que c'est un artiste des années 60-70 et qui a abordé, je trouve, des thématiques fort intéressante.
Qui a démarré dans les années 70, puisqu'il a...
Oui, parce qu'il chante après. Encore, hein, c'est vrai. Non, mais oui, pardon. Eh bien, on va continuer avec le deuxième sujet. Je crois que c'est Emma qui veut nous parler de troc, de récupération par les grandes firmes, etc.
Exactement. Je voulais parler tout ce qui est échange, don et troc. Et en fait, qui était... Enfin, voilà. Et puis, forcément, ça a été un peu repris par les grandes entreprises et tout ça. Et en fait, à la base, surtout le don, le troc et tout, si on le considère d'un point de vue strictement économique, c'est pas vraiment une économie, ça relève pas d'un marché, alors forcément, ça relève pas d'un acte de consommation. Par contre, si on s'intéresse d'un point de vue plus historique, voire anthropologique, on dit que l'homme, il est bien au cœur de ces échanges-là, qu'il y a tout un système de ritualisation, et donc en fait, ça peut être considéré comme un rituel, et donc comme un acte de consommation. Et en fait, que ce soit l'échange, le troc ou le don, alors, il y en a qui peuvent être monétaires, mais ça l'est pas forcément. Par exemple, on peut échanger un service contre un service. Ouais. Ça peut être un échange, effectivement, de vêtements, un échange de mobilier, tout ce qu'on veut. Ça peut être aussi j'ai découvert qu'il y avait des trocs de passion, en fait,
Oui.
Voilà, donc je t'emmène un peu, c'est le principe, je t'emmène une journée dans mon univers et tu m'emmènes une journée dans le tien.
Ouais. Ça marche avec le BDSM, ça, ou pas?
Je ne sais pas, pourquoi je me demande à moi.
Non, c'était...
C'était une question.
Je ferai une recherche ce soir en rentrant, écoute. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a un site qui doit s'appeler, échange de passion, tu peux demander après.
Je vais demander, je vais aller voir ça vite fait alors.
Très bien. Et donc, voilà, en fait, et au final, l'échange, le troc ou le don, c'est des actes pas si anodins que ça, parce que sous couvert de ça, il regroupe pas mal de notions qui sont la réciprocité et l'attente d'un éventuel retour. Et en fait, ça fâche pas mal de monde, parce qu'en général, je sais pas si vous avez déjà entendu des gens, quand ils vont, par exemple, déposer des vêtements ou du mobilier, que ce soit dans une association, que ce soit chez Emmaüs, les petits frères des pauvres et tout ça, qui nous disent, bah, c'est bon, j'ai fait ma bonne action de l'année. Mmh. Et en fait, c'est ça. Et alors, cette notion, en fait, d'un éventuel retour, ça, qui est vraiment à la base, en fait, du troc ou de l'échange, alors pas forcément du don, même si pour certaines personnes, on donne, en fait, et on attendrait éventuellement, alors d'un côté un peu plus psychologique, voilà, ça flatterait l'ego ou ça nous libérerait d'une caution, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Et ça, il y a des personnes qui ne l'entendent pas du tout, donc qui vont prôner le don purement humain, sans vraiment d'échange, et donc qui ont vraiment du mal à voir ça comme un acte de consommation. L'acte de consommation, c'est pas forcément, comme je le disais au début, vraiment quelque chose de très monétaire et qu'il faut voir en fait comme un truc purement économique où voilà, on échangerait. En fait, l'acte de consommation, ça regroupe pas mal de choses en fait. Et enfin, vraiment, alors voilà, faut pas forcément froncer les sourcils et tout ça quand on parle de, enfin, du troc comme un acte de consommation, bien au contraire. Et alors moi, le gros souci que j'ai avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on dit que le troc, c'est devenu tendance. On parle même d'une économie de troc. Ça existe, ça s'appelle l'ET, pour dire, enfin, ou l'ITI, je ne sais pas, enfin, dépendant du pays dans lequel on se trouve. Et il y a vraiment, en fait, il y a vraiment des chercheurs là-dedans, dans l'économie de troc, qui commencent à faire un peu des analyses dessus, qui parlent vraiment d'économie de marché de troc et tout ça. Et donc, qui ont un peu étendu, il y a même, je crois, des notions de troc. Alors, il y a le premier, c'est vraiment l'échange d'un service à un autre. Après, c'est l'échange avec un attente de quelque chose. Si on dépanne, par exemple, alors, l'exemple qui était pris et qui m'a fait assez rire, c'était la garde d'enfants. Donc, vous demandez, voilà, vous devez garder, vous devez sortir avec, par exemple, mettons, votre conjoint ou n'importe quoi. Vous demandez à un voisin, alors ça passe sous une certaine notion de troc. Oui. Vous appelez une babysitter, c'est encore autre chose, parce que soit vous allez la rémunérer, soit, je sais pas, vous allez peut-être échanger autre chose avec elle. Tout bien, tout homme. Et soit, encore meilleur, dans votre couple, un des deux conjoints décide de rester à la maison, et ça encore, c'était regroupé sous la notion de troc. En fait, voilà, ce qu'on appelle un peu des concessions ou tout ça avec votre conjoint devient du troc carrément.
Ah ouais.
Pour dire comme en fait, on est vraiment allé chercher là-dedans et comme on est en train de poser des paliers de troc tout simplement. Ouais. Mais moi, en fait, au final, je trouve ça, qu'on soit revenu à du troc parce que vraiment le troc, c'est historiquement, ça part de vraiment très loin. Moi, ça ne me pose pas du tout de soucis. Je trouve ça vraiment bien, en fait, surtout aujourd'hui, avec, entre guillemets, tous les problèmes qu'on rencontre. Moi, je trouve ça sympa de repenser à certains systèmes, pourquoi pas. Donc, il y a des systèmes assez cool. Je ne sais pas si vous connaissez le SEL.
Si, c'est système d'échange local.
Ouais, c'est ça. Il y en a pas mal à Lyon. Je sais que les universités, alors c'est pas vraiment les universités qui les proposent, mais ça c'est un peu annexé, on va dire. Et il y a pas mal de services qui sont rendus. Alors c'est assez cool, moi je trouve. C'est par exemple, moi je cherche que quelqu'un me coupe les cheveux et puis moi je t'échange une heure, je sais pas, sur tel logiciel d'ordinateur ou n'importe quoi. Donc voilà, notez bien le SEL. Et puis après, il y a les... Ouais.
Oh non, vas-y, parce que je vais peut-être en donner un, mais que tu
D'accord.
veux peut-être donner, alors je te laisse terminer.
Et j'allais parler, non, des AMAP, sinon, c'est les regroupements des consommateurs et des producteurs locaux. Mmh. Donc voilà, enfin, tout ça, c'est des orgas, on va dire, qui ont un but assez sympatoche, c'est de regrouper les gens, et en fait, dans le sel, généralement, c'est des services qui sont gratuits, et c'est vraiment
c'est ça,
du troc.
C'est hors économique, hors économique, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils sont généralement, c'est un peu pas des associations, mais des organismes, à un but non lucratif qui sont créés et qui regroupent juste des personnes qui ont besoin, de s'échanger des services. Et plus, enfin, la MAP, alors, c'est un peu différent, mais voilà, enfin, c'était quand même un peu créé là-dedans, enfin, dans ce système-là. Ouais. Voilà, je sais pas si tu voulais en citer.
Moi ce que je voulais dire, c'est aussi un site internet, je crois, c'est Freecycle. Et en fait, c'est plein de gens qui ont des trucs dont ils ne servent pas forcément, ou ils n'en ont plus besoin, et puis bah, ils les filent. Donc regardez aussi, parce que ça peut être intéressant, c'est donner une seconde vie aux objets.
Mais on voit que le troc, ça emmerde le monde, parce que, surtout parce que c'est hors du système marchand. Mmh. Je vais prendre l'exemple du woofing. C'était donc le fait d'aller d'être logé et nourri contre des travaux à la ferme.
Oui.
Bah, ça se faisait beaucoup dans les fermes bio, hein, plus que dans les
l'agroalimentaire. Ouais, puis il y a beaucoup en Australie aussi, en Nouvelle-Zélande, tous les pays un peu comme
ça. Et ça a permis à plein de gens de voyager et tout, en plus c'est assez sympa. Et là en France, on est en train de taper sur le woofing en disant c'est du travail dissimulé, il faut payer des cotisations, il faut machin. Et en fait, on emmerde des tout petites exploitations, parce qu'en général le woofing, ça se fait dans des micro-fermes, c'est-à-dire c'est pas un truc planqué sur une exploitation de 25 000 hectares. Et ce qui est drôle, c'est que l'argument qui est donné, c'est le truck n'est pas dans le système marchand, donc il est une atteinte au PIB de la France. C'est ce qui avait été dit par un ministre. J'avais trouvé ça énorme, quoi.
Oui, alors qu'à côté, ce que je disais, ils sont en train de faire plein de recherches là-dessus. Ils nous positionnent des théories pas possibles sur le truck. Et puis après, effectivement, il y a ça. Dans l'autre genre, le couchsurfing, ça les emmerde complètement parce que ça ferait... baisser la consommation des hôtels et tout ça, parce que le couchsurfing, c'est pareil, c'est aller chez l'habitant, et en général, on lui laisse peut-être un petit truc à côté, ou on lui paye un repas si l'habitant fait visiter la ville aux personnes et tout ça, et c'est pareil, ça emmerde complètement le gouvernement, parce que du coup, ça serait une atteinte au tourisme et tout ça, donc on voit bien que ça embête. Et du coup, on a nos chères marques qui s'emparent du troc. Et puis, j'ai le droit de donner des noms de marques.
Ah, mais t'as le droit, t'es sur Canut, t'as le droit de tous les droits ici.
Donc, et en plus, je pense que là, c'est vraiment pas de la pub qu'on va faire.
Ah non, c'est pas de la pub.
Pense qu'on peut y aller.
Un peu le contraire. Allez, je vais quand même en donner plusieurs.
Bah oui,
mais je crois qu'on avait Intermarché qui nous avait fait ça. Alors, bien en plus, c'était le troc des familles, il me semble. Mmh. L'initiative à la base, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que l'initiative à la base n'est pas forcément mauvaise. Parce que je crois que pendant une. Il y avait des récupérations de produits et tout ça, plus ou moins non périssables, et pour ne pas faire du gaspillage. Mmh. Et ça, sympa le souci. Et après, pour donner une autre marque plus récente, on a H&M qui, c'est assez fabuleux. Ils sont emparés du système carrément, plutôt du don. Enfin, sinon, c'est du troc, c'est pas du don. Donc, tous les vêtements, que ce soit achetés chez H&M ou autre marque, ils les reprenaient, et ils nous donnaient des petits tickets, des bons d'achat à valoir sur une prochaine collection, je ne sais pas trop. C'était pas vraiment... Ouais, c'était quand même plutôt du troc, alors avec moyennant monétaire, c'est quand même un peu bizarre. Mais surtout, moi, je suis allée mener ma petite enquête. Et que ce soit les employés de H&M ou alors les personnes qui sont habilitées à ça, quand on leur demande oui mais ces vêtements ils vont aller à une assos, qu'est-ce qu'ils vont faire, non mais on va refaire d'autres choses avec ces vêtements, vous allez faire quoi, parce que on pouvait donner des vêtements neufs mais des vêtements usagés avec des trous, tout ce que vous voulez. Il y avait moi j'ai vu quand même les sacs se remplir, il y avait des jeans, il y avait des kawaii, ça faisait des matières comme pas possible, et ils savent pas.
C'est une opération.
Non, ils savent pas. Ils ont dit peut-être des sacs. Enfin, c'était un truc.
Bah sûrement, peut-être en faire. Peut-être potentiellement. On ne sait pas.
Un jour.
Ok. Ça va dépendre de ce que les usines au Bangladesh pourront
Exactement.
Faire.
Exactement. On ne sait pas trop.
C'est comme ils ne savaient pas trop si elle s'était effondrée ou pas.
Entre temps,
ils se sont dit voilà. Je les comprends. C'est compliqué quand.
C'est compliqué. Et moi, c'était juste pour dire que comme Gisèle. À la base, l'initiative n'est pas mauvaise, parce que rapporter ses vêtements, pourquoi pas. Après, faut pas oublier les Emmaüs, etc. Mais c'est surtout qu'il ne faut jamais oublier que c'est pour faire valoir leur image de marque et surtout leur image éthique de marque. Il y a un truc merveilleux qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Mmh. Et on est en plein dedans, et en général, c'est ça. Ils communiquent à mort là-dessus. H&M, ça a été pendant 6 mois de la communication avec de la pub sur leur site. Je sais même pas si c'est pas passé à la télé et tout ça. Avec de la bonne pub aussi dans la presse papier. Donc faut jamais oublier qu'il y a ça en général. C'est Voilà, enfin, c'est le gros problème aujourd'hui. Quand on avait des marques un peu éthiques du style Body Shop, elles se sont fait racheter par L'Oréal. Voilà, L'Oréal qui est une bonne entreprise. Alors aujourd'hui, ils sont arrêtés sur les tests sur les animaux, mais il y avait ça, il y avait d'autres choses. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours un peu se questionner là-dessous, quand il y a une initiative comme ça qui est prise, et puis ben, faire un peu plus confiance au réseau de proximité, on va dire, voilà, le sel, y a, faire du troc ben, entre amis, entre voisins, entre tout. Hein. Voilà.
Mais grave. Ouais, vas-y,
ouais, moi je voulais juste te dire, il y a un réseau qui marche vachement bien, c'est genre, tiens, à côté de chez moi j'ai des gens super pauvres, je sais qu'ils sont super pauvres, tiens, chez moi j'ai des fringues, je sais pas quoi en faire, bah, je vais leur demander si ça les intéresse, point barre, quoi, il n'y a pas besoin forcément de passer par une asso ou quoi que ce soit, les gens ne mordent pas, vous pouvez parler aux êtres humains, croyez-moi, ils parlent, ils sont gentils, ils ont même un cerveau.
Et par rapport justement à ce que tu disais, par rapport aux grandes boîtes, effectivement, quand t'as une grosse boîte quand même qui est capitaliste, hein, c'est pas un vilain mot, mais quand même, c'est une réalité. Enfin, je veux dire, ils font rarement les choses d'une manière. Enfin, ils sont rarement dans le don, quoi.
Hein. Désintéressés.
Désintéressés. Enfin, je veux dire, en même temps qu'ils font cette belle image, c'est ce que tu disais. Mmh. Ils s'achètent une éthique. À côté de ça, ils continuent d'exploiter des gens au Bangladesh et à laisser crever sous les gravats, quoi. Donc, c'est méfiez-vous, effectivement. Enfin, je crois que t'as complètement raison. Enfin, méfiez-vous, c'est même limite. Enfin, n'y allez pas, quoi.
Oui, non, mais c'est ça.
C'est
bien joli, les 5 euros chez H&M et tout. Mais alors, au final, en plus, c'est avec des conditions comme pas possible. Et puis. Comme disait Fab, on a des voisins, on a des personnes qui vivent à proximité, même de la famille, de l'entourage. Ben, on peut demander si ça intéresse quelqu'un, et puis voilà, quoi, au lieu de...
Mais oui.
Voilà.
Parce qu'après, on va souvent aussi dans des magasins vintage pour acheter les mêmes trucs, en fait, mais qui vont te coûter 3 fois plus cher. Ben, regardez déjà ce que vous avez autour de vous.
Demandez à Mémé ce qu'elle a encore dans son...
Mais grave, c'est super vintage.
Non, mais c'est vrai. En plus, c'est le retour des années 80. Je suis super bien. C'est
grave.
C'est mon époque.
J'espère que vous avez tous gardé vos t-shirts. Oui, Kiki.
Ouais.
Ouais, je lâche, je promets que c'est parti. Quoi.
Et en fluo et tout.
Mais en tout cas, enfin, ouais, c'est... Moi, je savais pas que tout ça, qu'ils faisaient des choses comme ça, H&M et tout.
Ah, mais si.
Je fais pas assez les magasins, c'est pour ça.
C'est ça. Faut que j'aille plus souvent à la part Dieu.
Ouais. Enfin... Trop bien sorti samedi. À la part Dieu.
Ouais. On se met.
Un peu de musique.
Ouais, de la musique, c'est mieux.
Beau. Allez, c'est parti.
gonna shuffle his deck clean.
Hello, vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est la causerie 102.2. Et on vient de s'écouter Melissa Ofdermaur avec Follow the Waves. Et je passe la parole à Fabien.
Oh, c'est gentil, merci.
Bon, et de quoi que tu vas nous
qu'est-ce
parler?
Qu'est-ce que tu vas nous causer?
Moi, j'ai appelé ma chronique avec Gattaz, c'est l'extase, mais je trouvais que c'était une provoque un peu la con. Mais je vais garder le titre.
Bah oui, gardons-le, soyons fous.
Bah oui.
Et qui est donc Monsieur Gattaz?
Eh ben, Pierre Gattaz, c'est le fils d'Yvon Gattaz. Et qui était Yvon Gattaz?
Ben oui.
Et ben Yvon Gattaz, c'était le président du CNPF de 80 à 86. Et c'était quoi le CNPF? Ben, c'est l'ancêtre du MEDEF. Voilà, vous avez un peu situé.
Ouais. Et c'est quoi le MEDEF?
Et ben le MEDEF, c'est le mouvement des entrepreneurs français. Voilà, ça l'a bien dit. Donc c'est le syndicat des patrons. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, déjà, c'est que chez les patrons, on arrive toujours à une place au mérite, hein, parce qu'il suffit d'être fils d'eux. Et généralement, on devient patron des patrons en assez peu de temps. Mmh. Et Pierre Gattaz, c'est donc le nouveau Laurence Parisot, pour ceux qui voient un petit peu qui est Laurence Parisot. C'est le successeur de Laurence Parisot. Et alors, il faut savoir qu'avant d'être à la tête du MEDEF, ce brave homme était à la tête de l'UIMM, au bureau, à l'époque où il y avait légèrement des histoires de caisses noires qui s'en allaient, machin et tout.
Qui pèsent plusieurs millions d'ailleurs, voilà, ces caisses.
Très très courageusement, il a dit non, c'est pas moi, c'est forcément un autre, et il a été élu à la tête du MEDEF.
Oui, tant qu'à faire. Hein.
Un mec super courageux, comme on peut le voir dès
ça
le début.
Ça saurait si les honnêtes gens réussiraient, franchement.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, donc c'est donc le patron des patrons. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que il a un petit peu accompagné notre cher président de la République révéré, un certain François Hollande. Qui est François Hollande?
Selon ce qu'on me dit dans l'oreillette, soi-disant François Hollande serait de gauche.
Oui, c'est ça. Il serait socialiste. Enfin, on nous a
à prendre au conditionnel, voilà, bien
c'est,
évidemment.
C'est ce qu'il avait écrit sur ses affiches, en tout cas. Mais ouais. Après,
on est sûr de rien, quoi.
Ouais, des fois, c'est un petit peu comme sur la pub. C'est toujours un peu faux. Et du coup, il a accompagné François Hollande aux États-Unis. Et ça a choqué personne, c'est-à-dire que bon, imaginons un président qui serait réellement socialiste de gauche, ouais, qui prendrait le numéro 1 de la CGT et de la CFDT, qui dirait venez, on va aux États-Unis rencontrer Barack Obama, qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu dans la presse? Ben là, vous avez un patron des patrons qui est à la tête d'un syndicat, je le rappelle, qui n'est pas une entité particulière, qui a le statut d'un syndicat, mais qui accompagne un président aux États-Unis pour aller serrer la louche à quelques grands responsables américains. Et ça n'a ému personne. Donc ça, c'est drôle, mais bon, c'était le côté anecdotique qui m'avait fait un peu sourire de me dire qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si ça avait été un autre syndicat, quoi.
C'est anecdotique et en même temps, ça arrive à chaque voyage présidentiel.
Ah oui,
non, mais je veux dire, à la rigueur, c'est bien que tu le redises parce qu'au final, ça arrive tellement souvent qu'on fait plus du tout attention et que, de toute façon, selon les médias de masse qui appartiennent à tous ces grands patrons, au final, ils le relèvent jamais, en fait.
Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, le président de la République d'emmener un syndicaliste pour rencontrer des syndicalistes américains? Rien.
Aussi.
Sauf que on le fait jamais. Bon, ça c'est parce qu'il est socialiste a priori. Mais et justement, ce président socialiste et cette assemblée nationale socialiste et ce Sénat socialiste majoritairement ont déjà pondu des belles lois sous l'inspiration de Monsieur Gattaz. Alors la première, c'est la fameuse loi compétitivité qui est issue de l'accord ANI dont je vous avais déjà parlé ici. Et cette jolie petite loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle précarise les travailleurs, elle pressurise les travailleurs, et surtout, elle est sans aucune contrepartie pour le patronat. C'est une loi où on dit le code quand même du travail en France, il est vachement trop contraignant. Alors du coup, on va faire en sorte que vous puissiez faire des accords qui dérogent au code du travail, comme ça vous emmerdez pas, hein. Mettez un syndicat fantoche dans votre boîte, et faites bien ce que vous voulez, l'État vous a couvert. Donc ça, c'était assez magnifique, c'était le premier coup d'épée, on va dire. Mais comme ça suffisait pas à M. Gattaz, il a dit à l'époque « Oui, alors si on fait ça, en plus, moi, je voudrais 100 milliards. Je voudrais qu'on m'enlève 100 milliards de cotisations. Parce que sinon, je peux pas... »
C'est trop dur, sinon, je comprends.
Donc du coup, et comme on a un président socialiste qui est du côté des travailleurs, il a dit « Ouais, non, t'as raison, c'est vrai, 100 milliards, comme t'es quand même un mec qui travaille beaucoup, Pierre, franchement, je vois, t'as repris la boîte à papa, c'est pas facile. Donc du coup, je vais t'offrir 20 milliards déjà. » Donc ils ont fait un crédit un crédit de 20 milliards, tout ça, hop, vas-y roule ma poule, et débrouille-toi derrière pour trouver les 20 milliards, pour compenser. Alors, c'est drôle parce que c'est dans cette période-là où on commence à nous dire, mais si on donne tout ça, il va falloir réformer l'UNEDIC, Il va falloir réformer la sécurité sociale et ce serait bien qu'on réforme les retraites. Bah, quand vous avez tout ça, en fait, c'est que c'est pas compliqué. Les 20 milliards, on allait les chercher à un seul et unique endroit, c'est dans la poche des salariés. Ouais. Et on a commencé à grogner sur les droits. Mais à Papa Gattaz, ça lui suffisait pas. Et il est un peu comme Laurence Parisot, il aime bien les phrases à la con et surtout les phrases provoques. Et là, il a dit François, sérieux, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu arrêtes les lois qui stressent les entrepreneurs.
Okay. Quoi
et, ça, et il a demandé un moratoire sur les lois qui stressent les entrepreneurs. Enfin, imaginez le truc, hein. Moi je connaissais un moratoire contre la guerre, un moratoire contre les bombes antipersonnelles, mais un moratoire sur les lois, je connaissais pas trop. Ouais. Et là c'est un nouveau truc, il a demandé un moratoire sur les lois qui stressent les entrepreneurs. Alors attention, quelles sont ces lois ?
C'était ma question un petit peu.
Et ben pour Papa Gattaz, ce qui stresse les entrepreneurs, c'est le code du travail.
Ah bah oui.
Parce que le code du travail,
ça les oblige à suivre des règles.
Voilà. Il a dit ça broque la compétitivité de la France parce qu'on est obligé de payer des gens même s'ils ne sont pas compétitifs. Mmh. Bon, je vous laisse traduire cette phrase comme vous voulez.
Bien.
Moi, je pense que s'il pouvait remettre le peloton d'exécution, il ne se gênerait pas, mais il n'a pas osé aller jusque-là. Et la deuxième truc qu'il voudrait qu'on enlève, parce que ça l'embête beaucoup, c'est l'inspection du travail. Il trouve que les inspecteurs du travail, quand même, ils ont tendance un petit peu à venir les emmerder trop souvent. Mmh. Alors bon, bah, François, il s'est dit, je ne peux quand même pas virer le code du travail tout de suite, ça va se voir.
Ça va se voir.
Donc je vais commencer d'abord par tuer l'inspection du travail.
C'est-à-dire parce que ça, c'était déjà dans un très mauvais état, quand même, l'inspection du travail.
Déjà dans un très mauvais état et c'est surtout ce qui permet quand même d'appliquer le code du travail. Oui. C'est-à-dire que l'inspecteur du travail, il est aussi là pour constater les dérives au code du travail. Donc bah, si vous enlevez les inspecteurs du travail, vous enlevez pas le code du travail, mais vous enlevez une grosse épine du pied du patronat. Et bah, il est en train de réformer l'inspection du travail. Alors pour vous expliquer, un inspecteur du travail bientôt va avoir entre 15 et 35 000 entreprises à les vérifier à peu près si vous prenez la future réforme. Donc, bonne chance si vous avez un problème dans votre boîte pour que l'inspecteur ait le temps de venir dire « Oui, je viens voir ce qui se passe dans votre boîte, parce que ce ne sera pas possible, hein, tout simplement.
Bah, » En 365 jours, si on fait bien le calcul, ça fait à peu près une centaine d'entreprises par jour.
Donc, c'est parfait.
En 8 heures de travail, enfin, je veux dire, c'est faisable. Hein, à un moment donné, il faudra arrêter, quoi.
Il faut arrêter de se plaindre, les gars. Et donc, du coup, voilà. Alors, bien sûr, dans la réforme, on vous dit « Non, c'est pas 15 000, c'est pas vrai, c'est pas si là. En fait, c'est juste qu'ils ont changé trois trucs. Ils ont mis trois statuts. Au lieu qu'il n'y ait que inspecteur du travail, il va y avoir inspecteur du travail et deux autres statuts qui n'ont pas encore de nom, mais qui sont en fait des sous-inspecteurs, mais qui eux n'auront pas les mêmes droits que les inspecteurs du travail. Donc en fait, on crée des sous-catégories qui ne servent à rien, mais qui servent juste à dire oui, mais on n'a pas changé le nom. Sauf qu'en fait, on a changé les prérogatives. Oui. Donc ça revient
ça
exactement.
Ça limite obligatoirement le champ d'action. Quoi.
Et ben, on s'est dit quand même après ça que Papa Gattaz, ça allait lui suffire quand même, parce que bon, pas déconner, quoi, il commence un petit peu. Bah non.
Qu'est-ce qu'il veut encore ?
Le fouet, il revoit le fouet.
Eh ben, il était pas loin de ça, mais là, il est quand même allé dire. Quand il était aux États-Unis, il dit il y a quand même un problème, c'est que. On va faire un pacte de compétitivité, ça c'est la grande blague de Hollande là pour pendant ses vœux. Donc on va encore baisser de 50 milliards en tout les cotisations patronales. Donc ça revient quasiment pour donner une image, hein, ça revient à peu près à tuer la branche sécurité sociale du travail. Donc tout ce qui est accident du travail, bientôt bon, vous aurez plus le droit à que dalle parce que c'est le but ultime, c'est ça, c'est de tout mettre sur le régime général, de tout aller sur les salariés, et d'enlever tout ce qui est payé par le patronat. Et il a dit aux États-Unis, il dit « Ah ouais, non, mais moi, je veux bien faire ça, mais alors, je veux pas de contrepartie. »
Ah bah non.
Alors, moi, j'ai regardé un petit peu, c'est quand même lui qui avait un pins marqué 1 million d'emplois créés contre 100 milliards de charges baissées.
Ah ouais.
Donc, c'est-à-dire que lui, il avait la contrepartie hein, sur son pins. Mais là, il a vite enlevé le pins. D'abord, c'était ringard, les pins. Et il a dit « Non, mais moi, je veux pas de contrepartie. » Alors bon, François Hollande a fait son job. Hein, il a fait semblant d'être un petit peu énervé. Il a dit « Oh, franchement, Pierre, tu déconnes.
Oh, » Ok, on signe où.
Il y aura de la contrepartie. Alors, pendant que Hollande disait ça aux États-Unis, Sapin, qui est ministre du Travail en France, disait « Moi, je suis pas trop pour la contrepartie. Je suis pour qu'on s'entende. » Ouais, ça veut tout dire et rien
donc
dire.
Donc ça veut dire qu'on a filé 100 milliards au patronat.
50 pour l'instant, 50, mais c'est déjà pas mal.
Qui au final vont revenir sur la gueule des salariés et tout ça sans aucune contrepartie d'embauche, de promesse, enfin de d'engagement d'embauche. Quoi.
Sauf que Pierre Gattaz, il a une idée. Il dit, bah, écoutez, comme on va devoir baisser ces cotisations, moi j'ai une petite proposition à vous faire. Et il l'a proposé pendant la réforme de l'UNEDIC. Il a dit, bah, comme on a moins de sous qu'on va mettre dans l'escarcelle, parce que forcément, si on met moins de cotisations, il y a moins de sous. Eh ben moi, je vous propose que pour un jour travaillé, ça correspondra à 0,8 jours cotisés. Pardon, j'avais perdu le mot. Donc, ça veut dire qu'en gros, jusqu'à maintenant, vous travailliez une journée, c'était une journée cotisée. Donc, quand vous étiez au chômage, vous aviez 2 ans devant vous pour retrouver un emploi en moyenne. Je fais une moyenne, mais bon, si vous avez travaillé 2 ans, vous avez 2 ans.
Ouais.
Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous baissez le truc de 20%.
Oui, donc c'est-à-dire que si tu te fais virer de ta boîte, au lieu d'avoir 2 ans de chômage, t'en auras plus que...
Un et demi,
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous diminuez. Alors, c'est d'autant plus dramatique pour tous les gens qui ne travaillent pas longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des contrats courts de 4-5 mois. Parce qu'à maintenant, quand vous travaillez 5 mois, vous avez 5 mois de chômage derrière. Je crois que c'est au 5e mois que ça déclenchait en taux plein. Et là, ça veut dire que quand vous travaillez 5 mois, vous avez 3 mois de chômage. Et après, il faudra vite aller trouver quelque chose. Parce que sinon, vous êtes un petit peu beaucoup dans la merde. Et c'est ça qu'il propose Pierre Gattaz.
Il est sympa, Pierre Gattaz.
On l'aime bien.
Il nous dit quand même, c'est quand même bien, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je vais créer des emplois. Et puis voilà. Puis vous allez, on va moins cotiser. Et puis voilà. Alors, c'est assez génial parce que, en fait, ce qu'il propose, on l'a déjà vécu. Alors là, vous allez me dire, ah oui, quand et où? Et en fait, dans la restauration. Parce qu'en fait, ce qui est mis là sur la table pour l'ensemble des entreprises, c'est ce qui a été fait sous Sarkozy dans la restauration.
Avec la TVA.
C'est la baisse des points de TVA et les emplois aidés avec donc des cotisations sociales patronales qui ont été basculées sur les cotisations générales, c'est-à-dire l'impôt de tous. Et à l'époque, les restaurateurs, ils nous ont dit, ça va créer 400 000 emplois. Vous vous souvenez, ces trucs-là?
Oui.
Et d'ailleurs, qui c'est qu'il y avait dans le truc des restaurateurs avec eux? Un certain Pierre Gattaz, qui était déjà là et qui réfléchissait déjà à ce truc-là.
C'est un filou, ce Pierre Roux.
Mais oui.
C'est surtout son boulot.
Et du coup,
dans les restaurateurs, ils nous ont dit que ça va créer 400 000 emplois. Or, j'ai fait une petite recherche et d'après l'INSEE, qui est quand même pas connu pour être ultra révolutionnaire, d'après l'INSEE, le nombre d'emplois créés suite à cette application de la réforme Sarkozy sur les restaurateurs, c'était en tout et pour tout grand maximum 11 000 emplois.
Ah ouais?
Voilà. Ce qui est, donc, vous voyez,
11 000, 400 000.
Ouais, presque pareil, quoi. Et en fait, ça démontre quoi? Ça démontre que ce discours à la con qui dit que moins je paye de cotisations, plus je crée d'emplois, ça ne marche pas. Et on a un exemple flagrant sur le fait que ça ne marche pas. Et le deuxième exemple, c'est que depuis la loi sur les 35 heures, loi Aubry, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, vous ne payez quasiment pas de cotisations quand vous êtes employeur. Juste pour vous informer, si ça avait créé de l'emploi, ou autant que ce que ça devrait, si je suis la raisonnement de Pierre Gattaz, aujourd'hui on devrait être en déficit d'emploi de 200 000 emplois en France.
Oui,
et non pas avec
4
millions de chômeurs.
Quoi, en fait.
Voilà. Donc juste pour dire que ce monsieur est un bel enfoiré, excusez-moi l'expression, mais qu'il ne peut avancer que parce que nous, on attend que ça se passe. Et c'est ça le fond du problème, c'est qu'on est toujours en train d'attendre. Donc je ne voudrais pas donner de leçon, ni demander aux centrales syndicales de se réveiller, mais...
Non, je pense que aux salariés, ça suffit.
Voilà,
ce serait
déjà pas mal que les salariés se réveillent. Moi, je dis juste comme ça, je crois que c'est jeudi, devant le MEDEF à Lyon, de midi à 15h, il y a un rassemblement. C'est un des exemples, vous regardez sur Rebellion, tout est annoncé. Allez-y, et puis commencez à leur dire que ça commence à faire beaucoup, et puis s'il faut, on en ira un petit peu plus fort que ça.
Je dirais même qu'au-delà que ça commence à faire beaucoup, c'est peut-être déjà même de trop, en fait.
Tout à fait, on est d'accord.
Parce que ça fait quand même des années qu'ils pressurisent les travailleurs. Quoi.
Pour être clair, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, qui est pas non plus un truc super révolutionnaire.
Ça
voilà.
Se saurait.
Et ça se saurait quand même. L'OCDE dit qu'aujourd'hui, le niveau de vie d'un salarié non qualifié en France est inférieur au niveau de vie d'un salarié non qualifié dans les années 80.
Ouais.
Ça laisse à réfléchir.
C'est ça.
Donc voilà. Mais je voulais juste donc présenter un petit peu ce que ce monsieur fait en ce moment, qui est donc le patron du MEDEF, et puis vous dire de vous réveiller et puis mettre un peu de musique.
Parce que le temps s'écoule.
Mais non, c'est pas le temps qui s'écoule, c'est la vie.
Ah ouais.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché, le temps payé.
de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
Et oui, 22-23 le dimanche, c'est la causerie sur Radio Canu 102.2 ou radiocanu.org pour ceux qui écoutent le super streaming qui marche ce soir. Et c'était les René Binamé avec La vie c'est cool.
Ouais, la vie c'est cool, du verbe écouler quoi.
Oui, c'est pas c'est cool quoi.
Ouais, bah genre la vie c'est trop bien, c'est trop cool.
C'est
quoi.
Trop cool. Lol.
Non, la vie c'est cool. Voilà. La vie s'enfuit.
Oui, je pense que les gens avaient compris, mais bon. J'avais envie de jouer. Donc, on passe au bref, parce que le temps, c'est cool aussi.
Soyons brefs.
Alors, moi, je voulais vite fait vous parler d'un spectacle dont vous avez certainement entendu parler par le Front National, parce que quand même, ils détestent la culture, mais ils en parlent. En fait, c'est qu'ils ont... ils sont outragés par le spectacle d'Olivier Dubois qui s'appelle Tragédie, parce que ce spectacle... Eh ben, c'est 18 personnes nues qui dansent.
C'est pas possible.
Et donc, le Front National a peur. Oui. Donc, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est nous, peur de ce genre de réaction-là, parce que ça veut bien dire que le Front National déteste la culture, parce que déjà, personne ne vous obligera à rentrer dans une salle de spectacle où les gens dansent à poil.
Moi, je veux bien qu'on m'oblige à rentrer
Attends, je jure, il n'y a rien de. Enfin, c'est pas de la pole dance, quoi.
Ah,
et encore, même la pole dance, c'est pas forcément porno. Donc là, c'est juste une démarche artistique, c'est un spectacle de danse contemporaine, et le Front National est contre. Donc, pour montrer que vous aimez la culture et qu'à un moment donné, vous la soutenez, à la Maison de la Danse,
Lens le 26 et le 27 février, donc c'est la semaine qui arrive, et ben il y a justement ce spectacle d'Olivier Dubois qui s'appelle Tragédie à la Maison de la Danse. Je pense que je l'ai assez dit.
À la Maison de la Danse.
Et ben allez-y.
Le 27 et 26.
C'est ça.
28, c'est ça.
Non, 26 ouais. et 27.
26 et 27, on y est presque.
Parce que le 28, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas le même jour.
Non. Okay. Fab, tu voulais nous parler de...
Juste faire un petit retour sur ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, enfin à Nantes plus exactement. Alors, il y a eu une manif sur Lyon qui s'est bien passée. Il y en a une à Nantes qui s'est plutôt bien passée, mais où les forces de l'ordre ont fait de la provoque comme d'hab et où ça a tourné, comme ils disent, à la guérilla urbaine. Attention, comme dirait Manuel Valls. Non, mais en gros, il y a des gens qui en ont eu un peu plein le dos et qui sont allés défoncer Vinci et Nouvelle Frontière, qui sont les deux grands demandeurs de l'aéroport. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. Et pour être clair, ce que je trouve moins cool, c'est qu'il y a eu des tirs de flashball tendu, c'est-à-dire direct. Et aujourd'hui, on a Quentin, qui est un camarade, qui a perdu un œil. Donc, merci aux gentilles forces du désordre d'encore et toujours protéger le capital en défonçant la gueule de nos jeunes. C'est super sympa. Voilà.
Ouais, je voulais peut-être juste rajouter deux, trois trucs. C'est, y a une colère aussi qui est montée parce que le parcours de la manif
a été modifié
vraiment à la dernière minute. Et ensuite, les vitrines brisées, ce sont pas des vitrines du petit boulanger du quartier. C'est, comme tu le disais, c'est Vinci, qui est donc le promoteur numéro un de ce projet-là. Nouvelle Frontière, qui eux ont intérêt à aussi faire voler des avions.
Mais ils avaient mis à l'aéroport sur la devanture, ce qui est quand même.
Non, mais c'est, je veux dire, la violence qui a eu lieu, les gens n'ayez pas peur de tout ce qui se passe, parce que les médias ont tout intérêt à vous faire peur, parce que ça a aussi été une des plus grosses mobilisations qu'il y a eu pour l'aéroport.
50 à 60 000 personnes et 528 tracteurs.
Ouais. Et donc voilà, on préfère parler des 2-3 vitrines capitalistes qui ont été brisées au lieu de la mobilisation qui a été encore une fois énorme.
Et j'aimerais bien moi qu'on parle des têtes des manifestants qui ont été brisées à coups de flashball.
Ouais.
Ce serait bien de le souligner parce que bon, voilà, il y a des gens qui font comme si ça n'existait pas.
C'est ça.
Voilà, ça m'a vachement choqué personnellement que encore une fois on fasse comme si ça n'existait pas comme toujours. Voilà.
Mais oui, mais la peur fait tellement de bien à tous ces. Enfin, bref. je crois, Emma, que tu voulais aussi nous faire une petite brève.
Je voulais juste toucher un mot alors, sur les magnifiques Jeux de Sochi. Alors, j'en dirai pas plus parce que voilà, on sait déjà ce que j'en pense. Il y a une sportive libanaise, alors je suis désolée, mais j'ai perdu son nom, mais voilà, qui aurait fait un photoshoot pour une assos. Alors le photoshoot avait rien de bien vulgaire et tout ça, mais il y a un petit malin qui aurait balancé les images du backstage sur internet où on la voit en train de se changer, ce qui a déclenché des super réactions au niveau du Liban. Elle s'est fait incendier, on lui a même menacé de la rapatrier et de dire que c'était un déshonneur pour sa patrie. Et bah voilà, encore un truc bien sympa, quoi. Mais il y a un mouvement qui s'est créé sur internet. Puis moi, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça, un peu qui se lèvent, voilà. C'est le mouvement I'm Not Naked, et c'est vraiment un mouvement en fait de soutien. Donc vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux, puis même je crois qu'il y a bien une page internet qui s'est créée, voilà, où en fait ben on dit et puis même si je suis à poil, à la rigueur c'est mon corps, ça m'appartient, et c'est pas parce que ben je me montre un peu dénudée que je suis une salope, et quand bien même, voilà, c'est tout.
Ça c'était bien.
Grave.
Voilà.
Soyons fiers.
On mettra tout ça sur le blog.
Oui, ouais. Sur le blog, sans souci.
À l'adresse blogs. radiocanu.org/lacauserie.
Vous êtes top, mes chéris.
Oui.
Et ben, je crois qu'on est. Waouh, on est à l'heure. Et alors ça, je pense que bravo,
bravo nous,
bravo nous. On est à l'heure. Ça, c'est quand même génial. Et donc arrive l'instant.
Magique.
Bon, déjà, vous avez attendu la causerie jusqu'à 22h. On était là. Ça vous a fait du bien. Et là, maintenant, je pense que. C'est le point d'orgue, en
c'est
fait.
C'est ça.
C'est une dédicace à Louli.
Qui est grave. Ouais. Louli, tu nous aimes.
Nous
on
aussi.
T'aime.
On te le rend bien, tu vas voir.
Et puis, ben, plein de câlins, quoi.
Ouais.
On donne quand même juste le nom du groupe.
Ouais, ça s'appelle...
Morb.
Yes,
Morb.
Voilà. Morb.
Et le reste, vous allez reconnaître.
Ouais.
Donc, Louli met bien un fond. Là, c'est
ouais,
en train
le titre, quand même, non, on donne pas le
non,
titre.
Non, c'est une surprise.
C'est une surprise.
Et surprise. Puis, c'est la fin aussi.
C'est la fin.
On se quitte.
Bah oui, on se quitte.
À la semaine prochaine.
Ouais. Et moi, je fais des bisous à Louli, mais aussi à Johanna.
Oh, c'est la classe.
Ok, ouais. Bah moi, je fais des bisous à qui en veut. Bon.
Ouais, moi, je fais rien parce que je suis un méchant.
Ben, on se souhaite une bonne semaine.
Ouais,
on se souhaite
bonne
une bonne semaine.
Semaine
aux travailleurs, aux étudiants et aux chômeurs aussi.
À tout le monde, aux retraités et tout ça.
Tout le monde, quoi.
Et du courage à ceux qui luttent parce qu'il y en a un paquet.
Yes. Ouais.
Voilà.
Bonne Merci. Semaine à tous.
Des
bon
bisous.
Courage. Bisous, bisous.
Allez, c'est parti.
Ciao.
On t'aime.